Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guège.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. La pratique de la médecine est une des plus belles choses qui soit, et ce n'est pas moi qui vais vous le contredire. Seulement, devant les avancées de la médecine, les progrès technologiques, les nouveaux traitements et recommandations, il est parfois difficile aux médecins d'établir une prescription médicale sûre et efficace. C'est ce qui a donné donc l'idée à notre premier invité, Emmanuel Bilbao, de cofonder Posos, première solution de sécurisation du circuit de prescription avec une portée mondiale. Et quand la technologie et l'innovation sont au service du sport et de la santé, ça s'appelle Drillight, start-up qui produit un dispositif, le Icon, qui permet d'améliorer la technique, le physique et le cognitif dans la pratique sportive. Morgan Melchitsen, son cofondateur, et Charles Eisenberg, médecin du sport, nous le présentent. Et si les choses avancent si vite, c'est souvent grâce aux investissements dont les start-up profitent. Marc Bessol, directeur de Capital Cell, France et Belgique, qui est déjà leader en Espagne, nous présente sa plateforme de crowdfunding. Check-up santé, c'est parti. Emmanuel Bilbao, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes passé par l'ESSEC, vous avez fait pharmacie, vous êtes passé ensuite par l'industrie pharma, AstraZeneca, Teva, et vous êtes le cofondateur de Posos. Ce sont vos différents passages dans le domaine de la santé qui vous ont donné l'idée de créer Posos ?
Oui, et puis c'est un constat généralisé, hein, que c'est le même qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. La prescription, c'est complexe, les patients sont de plus en plus âgés, ont plus de médicaments, la médecine se complexifie avec des nouveaux traitements plus perfectionnés. Et donc, en fait, aujourd'hui, 40 à 60% des patients ont des prescriptions qui peuvent être améliorées. C'est les constats qu'on a dans les hôpitaux. Sauf que les médecins, on le sait, les médecins sont débordés. On a du mal à trouver un médecin aujourd'hui dans le monde. Donc, on peut pas leur demander de passer 30 minutes à revoir chaque médicament et tout optimiser. Les médecins, les pharmaciens ont besoin d'un assistant numérique qui leur fait gagner du temps et sécurise et améliore les prescriptions.
Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les prescriptions, des médicaments,
c'est des risques médicamenteux qui, heureusement, ouais, n'entraînent pas forcément des conséquences graves. Mais on a quand même, à l'échelle de l'Europe, 200 000 morts chaque année liées au mésusage des médicaments. C'est évidemment immense.
Donc vous voulez simplifier donc le travail des soignants.
C'est faire gagner du temps et prescrire mieux.
D'accord. Quelle cible vous vous adressez ?
Alors, toute personne qui manipule les médicaments, ceux qui prescrivent, ceux qui les délivrent, ceux qui les administrent, concrètement, Posos, notre vision, c'est d'améliorer le travail et aider les soignants, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des dentistes, des sages-femmes. Ils sont très nombreux à utiliser les médicaments.
Alors, donc vous avez donc conçu donc une solution de sécurisation du circuit de prescription. C'est bien ça ?
C'est ça l'idée, c'est une solution qui permet de croiser de l'information. Parce qu'en fait, l'essentiel d'une décision de prescription, c'est je prends un patient qui a un certain âge, des pathologies, d'autres traitements, et je vais lui prescrire un nouveau traitement et l'adapter. Tout ça, c'est croiser plein d'informations. Sauf que les médecins, vous le savez bien, ils sont submergés d'informations qui sont des textes médicaux, des PDF sur Internet ou des pages web. Croiser l'information en temps record, c'est impossible. C'est un petit peu comme lire 15 cartes Michelin pour faire son trajet, utiliser Waze, c'est beaucoup plus simple. Donc nous, c'est ça l'idée qu'on a, c'est de permettre très rapidement de croiser l'information médicale pour aider les soignants à prendre des meilleures décisions ou les guider en tout cas.
Alors vous utilisez bien sûr l'intelligence artificielle, mais ce qui est rare, c'est que votre intelligence artificielle ait obtenu l'agrément de la Haute Autorité de Santé.
En fait, non seulement on utilise l'intelligence artificielle dans la solution, mais on l'a surtout utilisée aujourd'hui pour la construire. Mm-hmm. Concrètement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une nouvelle base de données, et ça c'est le support, c'est le socle de tout logiciel médical qu'utilise un soignant. Ça permet de faire des recherches sur les médicaments, prescrire, vérifier qu'il n'y a pas de risque. Sauf que toutes les bases aujourd'hui, c'est des bases essentiellement texte. Ça permet d'afficher de l'information. Je parlais de la carte Michelin juste avant. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a converti toute cette connaissance médicale texte dans un code informatique que le logiciel peut utiliser pour guider le médecin. Et donc ça prend énormément de temps pour un humain. Il faudrait 10 minutes pour chaque annotation. On appelle ça une annotation. Quand c'est une IA qui le fait, qu'on a entraîné pendant 3 ans à ne faire que ça, c'est quelques millisecondes pour un texte entier. Donc c'est absolument redoutable.
Qu'est-ce qui fait que vous avez obtenu cette autorisation qui est relativement rare quand même?
Oui, alors heureusement
cet agrément de l'HAS.
On ne peut pas mettre entre les mains des soignants une base de données comme celle-ci sans une validation des autorités de santé. En France, c'est la Haute Autorité de Santé qui doit valider en fait que la façon de le construire, de la maintenir, répond à tous les critères qualité et de sécurité essentiels. La façon dont on l'a construit, c'est l'absolue qualité, puisque on a une intelligence artificielle qui va annoter, un pharmacien qui va valider ce qu'elle a fait, un deuxième pharmacien ce qui va valider que le pharmacien a bien validé, et ensuite de nouveau l'informatique qui va vérifier qu'il y a une cohérence de toutes les annotations entre les médicaments qui sont similaires. Mais jamais on peut faire ça seulement avec des humains.
Mais est-ce qu'il est possible d'avoir une sécurisation à 100%?
Alors c'est
le médecin a quand même toujours la main.
Absolument. Alors là je parle juste de la construction de la base. Ensuite le médecin, il est guidé, mais c'est lui qui décide. C'est toujours le soignant qui décide.
Alors comment ça marche? C'est sous la forme de quoi? D'une application? Alors on peut l'utiliser sur son ordinateur, sur son téléphone? Comment ça marche?
La base de données, c'est le support de tout logiciel, application mobile ou site web. Donc nous, ce qu'on vient de construire et lancer, c'est cette base de données. Ensuite, elle est utilisable par l'application Posos, qu'on peut télécharger en ligne gratuitement, par le site web Posos, mais surtout dans les logiciels médicaux, là où les médecins prescrivent, là où les pharmaciens valident des prescriptions, puisque Posos est en train de déployer cette base avec des logiciels partenaires.
D'accord, mais qu'est-ce qui vous différencie de véritables institutions, hein, comme le Vidal, comme Claude Bernard?
Comme je disais, ces bases-là ont été créées à une époque où il n'y avait pas de code unique dans le monde entier sur les pathologies, les médicaments. Donc la seule façon de créer une base, c'était d'écrire du texte dedans. Or le texte, c'est pour un seul pays, une seule langue, et le texte, l'ordinateur ne peut pas le comprendre. Nous, ce qu'on a construit, c'est une base à partir des référentiels, les terminologies que tous les médecins dans le monde ont construit ensemble en disant la façon dont on va appeler le diabète, c'est ce code-ci. La façon dont on va appeler l'AVC, c'est ce code-ci. Et en uniformisant la façon d'appeler les maladies, les médicaments, les effets secondaires, ils ont créé une sorte de dictionnaire en code informatique de toute la connaissance médicale. Nous, on a utilisé le dictionnaire qu'ils ont construit pour construire une base de données qui est entièrement encodée avec ces terminologies-là. La magie de ça, c'est qu'en fait, cette même base de données peut être utilisée dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue et par n'importe quel logiciel, parce que tous parlent la même langue. Et le deuxième avantage, oui, c'est de pouvoir croiser cette information de manière illimitée.
D'accord, donc votre start-up est relativement récente. Vous avez déjà des retours, donc c'est déjà en place. Vous avez déjà pas mal d'inscrits.
Ça fait aujourd'hui 5 ans qu'elle existe. La première version de cette base de données qu'on avait construite est utilisée par 85 000 soignants à travers l'application mobile, le site web, le logiciel. Aujourd'hui, on a une portée mondiale qui est possible, puisque cette base peut être utilisée dans n'importe quel pays du monde. Et l'enjeu, c'est de créer ensemble cette base de connaissances mondiales des médicaments, tout le temps à jour, et qui permettra de mieux soigner dans le monde entier.
Bon, il y a quand même un business model, un business économique.
Évidemment, aujourd'hui...
La base, il y a une partie gratuite et une...
Il y a une partie qui est gratuite en ligne, c'est un bon point. Et l'autre partie...
Qui permet quoi?
Qui permet de faire des recherches sur les médicaments, avoir des informations sur les médicaments, croiser aussi pour vérifier qu'à partir d'une prescription, qu'il n'y a pas de risque entre des médicaments qui ne vont pas ensemble, ou un médicament qui ne va pas qu'une pathologie, vérifier
donc,
les posologies.
C'est une partie gratuite qui va loin.
Ça, c'est gratuit, qui va déjà loin, beaucoup plus loin que ce qui existe. Mmh. Et la partie payante, elle est encore plus magique, c'est qu'elle permet aussi de lire une ordonnance. Donc on peut prendre en photo une ordonnance, automatiquement l'analyser, l'intégrer dans son logiciel, la corriger. On fait gagner un temps formidable sur la saisie d'informations. On peut prendre une photo, on peut parler à son ordinateur ou à son application mobile pour prescrire. C'est une révolution pour un médecin, hein, qui passe 5 minutes à prescrire sur son clavier. Mais aussi, l'intelligence de Posos va guider le médecin sur les 2 ou 3 médicaments qu'il recommande de prescrire pour un patient donné.
D'accord. Donc ça peut s'intégrer au logiciel, évidemment, du médecin, mais ça peut s'utiliser aussi tout seul.
Absolument. Ouais.
Ouais, c'est un peu l'avantage. On n'est pas obligé d'avoir un logiciel, de prescrire un logiciel médical pour utiliser votre...
Absolument. Mais la vision qu'on a, c'est que Posos soit déployé dans le logiciel, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, pour apporter cette intelligence qui aujourd'hui est demandée par tous les soignants en disant, je veux que mon logiciel me fasse gagner du temps, je veux qu'il soit intelligent et qu'il m'assiste dans mes décisions. Ça, c'est possible à partir d'aujourd'hui grâce à Posos.
Et donc, dans le futur proche et moins proche, comment vous voyez l'évolution de votre plateforme?
Alors, c'est à la fois, comme je disais, de pouvoir s'intégrer dans les logiciels pour apporter l'intelligence, se déployer dans tous les pays du monde et qu'on ait en France la base de connaissances mondiales sur les médicaments qui soit gérée en France par Posos. Et puis, troisièmement, c'est aussi d'intégrer plus de connaissances puisqu'on peut agréger presque sans limite la connaissance médicale et dire que le médecin va prescrire instantanément avec les dernières recommandations de prise en charge dans le monde.
Rassurez-moi, vous allez rester en France?
Absolument.
Merci beaucoup Emmanuel Bilbaud, patron de Posos. On va poursuivre avec Morgan Melchilsen, cofondateur de Drillite, et Charles Eisenberg, médecin du sport.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Morgan Melchilsen, bonjour.
Bonjour Fabien.
Vous êtes le cofondateur de Drillite. Charles Eisenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin du sport à Paris?
Oui.
Alors, Morgane Melchisen, qu'est-ce qui, vous êtes un ancien sportif de haut niveau, hein, vous étiez hockeyeur, qu'est-ce qui vous a fait imaginer un produit comme Icône? Alors, je précise, Icône, E-C-O-N-E.
C'est ça, exactement. En fait, ce produit, c'est le résultat à la fois de toute ma carrière d'ancien sportif, et c'est aussi le résultat d'un travail d'études autour du monde du sport, de la santé, et avec un groupe de personnes scientifiques.
D'accord.
Où on s'est un petit peu renseigné sur quel allait être l'entraînement de demain, au-delà de l'aspect physique, et on s'est rendu compte que l'aspect cognitif avait une place prépondérante dans l'entraînement de demain.
D'accord. Et l'entraînement classique donc n'était pas assez efficient, n'était pas assez.
En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a pas mal d'objets ou de technologies qui nous permettent d'amener une personne à un point physique, athlétique, là où on veut. Le sport aussi va de plus en plus vite. Et ce qui fait la différence aujourd'hui dans le monde du sport, c'est le côté cognitif, l'intelligence. Et donc, on n'a pas grand-chose pour travailler ça dans le monde de l'entraînement.
Charles Eisenberg, dont vous êtes, vous aussi, j'imagine, un sportif et médecin du sport. Le sport, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé, mais c'est encore mieux quand on associe plaisir, performance et santé.
Tout à fait, avec un côté social sympathique. Et donc, l'avantage de l'Icône, au-delà de l'aspect sportif pur, médicalement, c'est deux choses. D'abord, l'accompagnement des patients post-blessure, des sportifs, vers la récupération et vers le retour au sport. Et puis ensuite, c'est effectivement le sport santé pour nos amis plus âgés, seniors, avec une activité, avec une stimulation qui est très intéressante.
Qui peut l'aider même dans la reprise de l'activité sportive ou pas, oui. Dans l'activité physique.
Tout à fait, qui est le but ultime.
Alors justement, Morgane, quel est cet appareil, cet objet? Comment ça marche?
Alors c'est un objet qui va émettre principalement de la lumière.
Petit, par rapport à ce qu'il fait, par rapport au service qu'il rend quand même.
Petit, en fait, ce qu'on a voulu aussi mettre en œuvre, c'est que ce soit un objet qu'on puisse emporter un peu de partout avec nous. Donc c'est un objet qui va émettre de la lumière avec différentes fonctionnalités. On peut le paramétrer vraiment comme on veut. Et il va fonctionner soit tout seul, soit à plusieurs. On peut en utiliser 4, comme 10, comme 20. Et on peut couvrir la totalité d'un terrain de football, par exemple. Et cet objet va interagir avec le sportif et de façon autonome. Donc,
Si vous disiez que vous alliez le programmer.
Oui.
Donc pour le programmer, il faut qu'il soit en contact avec quoi?
Avec une application qu'on a développée.
Avec une application, voilà. Qui peut être sur votre téléphone,
sur
un ordinateur.
Sur tablette, sur ordinateur. Exactement.
D'accord, oui.
Et en fait, au-delà d'un cône non plastique classique, si je prends l'exemple d'un slalom, c'est l'icône qui va donner une indication de passage au sportif. Donc sur un slalom basique, on va faire droite-gauche, droite-gauche. Là, l'icône va s'éclairer vraiment au dernier moment en s'adaptant à la course du sportif pour provoquer déjà une prise d'information cérébrale auprès du sportif et pour enchaîner sur une activité motrice. Donc est-ce que je fais un appui pied droit, un appui pied gauche, ce type de choses. Ça, c'est un exemple de ce que peut faire l'icône. Et quand on fait ça, pendant l'exercice, l'objet est capable aussi de récolter de la donnée. Donc on est capable d'avoir une donnée de
vitesse. Donc il analyse votre mouvement.
Il analyse aussi le mouvement, il analyse un petit peu la vitesse de tout ce qu'on peut enchaîner, des temps de réaction aussi. Et donc il remet derrière sur l'application ces données-là pour avoir un vrai suivi de progression et de performance de la personne.
Vous l'avez essayé, j'imagine, vous l'avez déjà testé sur des sportifs. Qu'est-ce que vous avez comme retour?
Je parlais de moi, je me dis oui, je cours très très vite.
Oui.
Alors, sur les sportifs, oui, encore une fois, l'important, comme vient de dire Morgane, c'est la prise d'information et la réaction. Et on a beaucoup d'entraînements dans tous les sports qui sont très techniques, mais par contre, un entraînement plus cognitif, plus sur la prise d'information et la réactivité, n'est pas quelque chose qui est très fréquent, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les entraîneurs, parce que justement, on va pouvoir développer d'autres aspects important du sportif en préparation. Et on sait bien que le temps de réaction, par exemple d'un tennisman, sur le placement, sur le service de l'adversaire, va être différent entre l'amateur et le professionnel. Et en fait, c'est sur ce genre de choses qu'on peut travailler avec ça. Sur le plan médical, ça va être sur la fin de la rééducation, après blessure, au moment de la réathlétisation, avant de remettre le patient au sport, qu'on va utiliser ce type d'appareil pour justement pouvoir recréer des conditions naturelles de sport où l'imprévu est le maître mot.
Ça s'adapte, Morgane, ça s'adapte à toutes les activités physiques, sportives?
Vraiment toutes les activités. On va travailler avec des clubs professionnels de football, de rugby, etc. On va aussi
peut-être pas la plongée sous-marine.
On n'a pas encore testé encore vraiment sous l'eau, mais peut-être un jour.
Ouais.
Et on va aussi pouvoir travailler avec le monde amateur du sport. Là, il y a une très forte demande, notamment avec les enfants. sur le côté motricité, apprentissage, etc. Et c'est un objet qui est aussi très ludique. Donc on observe vraiment une courbe de progression qui est beaucoup plus importante chez les enfants. Mmh. Et on a aussi tout le côté sport-santé, là qui représente vraiment un attrait ces dernières semaines de plus en plus concret pour nous. Et donc là, on a de plus en plus de demandes avec des kinés, des physios. On est aussi contacté par des médecins dans certaines pathologies, voilà, pour faire des tests et
essayer de parler. Donc peut-être que vous pourriez l'allumer. Donc
je peux rapidement l'allumer.
En fait, le sportif est orienté par les différentes couleurs, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'objet, il peut s'allumer de toutes les couleurs qu'on le souhaite. Ça, c'est paramétrable. Il peut s'allumer dans son entièreté. Il peut clignoter. Il peut s'allumer sur son côté droit, son côté gauche. Il peut avoir des cinématiques de lumière à 360. Et comme vous le voyez, en fait, sur les côtés, ici, on a des capteurs. On a aussi une intelligence quadricœur qui est embarquée dans l'objet. Et en fait, il va vraiment observer, entre guillemets, ce qui se passe autour de lui pour capter un maximum de données. Et cette donnée, la remettre.
Mais il va orienter le sportif en fonction de différentes couleurs, c'est ça?
En fonction de différentes couleurs. Donc, il peut. On peut donner des contre-indications ou des fausses informations. Par exemple, si je vous dis de suivre la couleur rouge et qu'à un moment donné, il y a une couleur bleue qui s'allume du côté droit, il faut peut-être passer à l'opposé de la couleur bleue. Voilà, ça peut être une consigne donnée par le coach ou par le kiné ou par la personne qui maîtrise l'objet. Mmh. Et donc, autour de ça, on peut vraiment imaginer tout type d'exercice.
Charles Eisenberg, donc on peut en utiliser plusieurs, mais est-ce que ça peut être suffisant d'en utiliser qu'un seul?
Tout dépend de l'utilisation. C'est vrai que sur un terrain sportif, il y aura probablement l'utilisation de plusieurs. Dans un cabinet de kiné, de rééducation ou dans une maison de retraite, qui est aussi une indication très importante de l'icône, un ou deux vont suffire largement. C'est plus la stimulation et la réaction, le mouvement provoqué par cette stimulation qui vont être intéressantes, plutôt que d'avoir de multiples stimuli différents.
Donc, pour finir, vous dites que, évidemment, ça s'adapte aussi, c'est fait pour le sportif, mais c'est aussi fait, justement, dans un cadre médical.
Exactement. En fait, ce qui s'est passé, la véritable histoire de ce pourquoi aujourd'hui on intervient dans le monde de la santé, c'est qu'en rencontrant des clubs professionnels, on a rencontré des cellules médicales avec qui on a énormément travaillé. Et on est venu à tester l'objet vraiment auprès de patients, en phase de rééducation, de réathlétisation, sportifs de haut niveau ou pas. Et on s'est aperçu que, en fait, le potentiel de l'icône allait beaucoup plus loin que ce qu'on estimait nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a de la demande vraiment de plus en plus importante dans ce domaine-là.
D'accord. Et dans différentes pathologies, ça peut être même le Parkinson à la limite, ou ça peut être...
Oui. Alors, déjà, de façon très large, la personne âgée, qui parfois a un manque de stimulation, et le fait d'avoir cette stimulation, de provoquer des mouvements, d'avoir aussi une sociabilisation, est quelque chose qui est très très bénéfique pour elle, quelle que soit la pathologie.
Alors, on est sur BFM Business, hein, donc on est obligé de parler de coûts. Ça a un coût quand même, l'icône?
Oui, aujourd'hui, on est sur un objet qui est à 380€ hors taxe. Ouais. On recommande, nous, d'en utiliser plusieurs, vraiment pour multiplier les possibilités d'exercice. Et derrière, on a un système d'abonnement avec une première gratuité qui nous permet déjà d'effectuer une certaine activité, d'avoir
des exercices. Version freemium?
Voilà, version freemium. Mmh. Et ensuite, on a des abonnements en fonction de ce qu'on veut en faire aussi de cet objet. Est-ce qu'on veut avoir de la data vraiment très précise et qu'on veut la collecter, l'archiver dans le temps pour vraiment avoir un vrai suivi du sportif ou du patient? Est-ce qu'on veut avoir accès à toute une panoplie d'exercices? Parce qu'on a aussi une bibliothèque d'exercices qu'on met à disposition, qui a été pensée et faite par des professionnels du sport et de la santé. Voilà, c'est vraiment un différent système d'abonnement qui s'adapte à tout le monde.
Et vous attendez d'autres levées de fonds peut-être pour vous développer?
Voilà, exactement. On ouvre le capital, là. Ça y est, c'est lancé.
On lance l'appel.
On peut lancer un appel, avec plaisir. Et en fait, si vous voulez, on a eu pas mal de précommandes ces derniers temps. Et donc, du coup, on sent qu'on a vraiment besoin d'accélérer maintenant d'un point de vue commercial. Et d'où le fait d'ouvrir le capital aujourd'hui.
Merci beaucoup, Morgan Michelsen.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup, Charles Eisenberg.
Avec plaisir.
Et on souhaite beaucoup de beaucoup de bonnes choses pour votre produit. Voilà, on va accueillir Marc Bessol, qui dirige Capsel et qui nous vient de Montpellier.
BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Marc Bessol, bonjour. Alors, vraiment, deux fois merci, puisque vous deviez venir la semaine dernière de Montpellier, votre train a eu un problème. Pas vous, mais votre train, hélas. Donc, c'est vraiment sympa de revenir cette semaine. Donc, vous avez quand même un casier judiciaire bien rempli. Vous avez fait mine, vous avez fait HEC, et vous êtes à présent donc directeur France et Belgique de Capsel. Capsel, qui est une entreprise espagnole au départ.
Alors, Capsel est une plateforme de crowdfunding spécialisée dans la santé, créé en 2015 en Espagne.
Oui.
Je vous donne quelques chiffres. Depuis 2015...
Capital Cell, hein, j'ai dit Capcell, mais c'est Capital Cell.
Capital Cell. C'est à peu près 2600 dossiers start-up santé évalués. C'est une centaine d'investissements. C'est à peu près en fonds levés un peu moins de 100 millions d'euros. Sur ces 100 entreprises, il reste 93 entreprises aujourd'hui dans le portefeuille.
Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que vous sélectionnez bien vos entreprises. Donc, et vous étiez donc en Espagne. Vous, maintenant, vous vous développez en Europe. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait avoir un passeport pour vous développer en Europe. C'est bien ça ?
En fait, il y a une logique d'uniformisation des pratiques du crowdfunding à l'échelle européenne. Il y a une autorité comme l'AMF en Espagne, CNMV, qui est en fait sur une base de critères multiples, évalue la conformité pour l'exploitation de Capital Cell en Europe, dans lequel moi je suis directeur de la France et de la Belgique.
Donc un passeport pour une extension en Europe, c'est ça ?
Exactement.
Qui est délivré par une instance européenne.
C'est une instance qui est en Espagne, qui est la même que l'AMF, sous une base de critères, qui dit « Ok, vous pouvez donc être une plateforme européenne et exploiter vos activités en Europe. »
Bon, donc vous étiez leader en Espagne, j'imagine que vous voudriez devenir un des leaders en France et en Belgique, voire plus.
L'idée aujourd'hui de Capital Cell, c'est d'être le spécialiste de la santé en crowdfunding. Il y a très peu d'acteurs, puisque pour rien vous cacher, on est le seul. Et d'exploiter au maximum sur le territoire européen. Nous, on discute évidemment sur le territoire français et belge.
D'accord. Donc, vous êtes donc la première plateforme d'investissement en ligne en Europe.
Oui.
C'est la première qui est spécialisée dans la santé
et
dans la biotechnologie. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding.
Oui. L'idée du crowdfunding...
Dites-nous comment ça marche.
Oui, très bien. L'idée du crowdfunding, c'est trouver des startups de qualité avec des critères qui vont être d'évaluation des dossiers. On s'appuie aussi sur une communauté d'experts via une plateforme qui s'appelle BioExpert Network. BioExpert Network permet d'évaluer par des experts un peu partout en Europe ce projet, d'avoir un retour. Et in fine, on a un comité de sélection. On retrouve dans tout type d'investissement et de fonds d'investissement qui fait la sélection du dossier. Donc, bon, aujourd'hui, la sélection, c'est 3%. Vous avez 100 dossiers, 3 dossiers sélectionnés.
Pire que les études de première année de médecine.
Pire, et c'est plus sélectif qu'un fonds d'investissement. Ça, c'est important de le garder en tête. Cette sélection se fait par des experts. Capital Cell, c'est en gros des partenaires dans des fonds d'investissement, des biologistes, des ingénieurs.
Alors, on va y revenir. Mais vous êtes aussi, j'imagine que vous êtes aussi sollicité, non, par des start-up ou pas ?
Alors, aujourd'hui, on a quelques chiffres sur cette fin d'année 2023. Les levées de fonds se sont taries, notamment sur la partie early stage, seed, série A. Donc, c'est là où on intervient pour les levées de fonds. Donc, on a toute notre place aujourd'hui pour essayer d'agréger le tour de table. Je vous donne un exemple. Vous avez un VC qui met 1 million, il manque 2 millions. Capital Cell va intervenir sur ces 2 millions d'euros.
D'accord. Donc, qui sont les investisseurs, justement ?
Alors, les investisseurs, on a trois typologies. On a les family office, on a ce qu'on appelle les single family office, personnes fortunées qui souhaitent investir. Nous avons les multi-family office, ce sont des sociétés de gestion qui gèrent les fortunes de plusieurs personnes. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, j'ai envie de dire, c'est des praticiens comme vous, comme vos pères, comme vos confrères, consoeurs, qui, eux, ont une sensibilité médicale, qui vont se dire, là, sur ce dossier-là, je comprends la cardiologie, je souhaite investir en cardiologie. On a une vraie poche d'investisseurs, praticiens, experts, biologistes, directeurs de laboratoire. Et on a ce qu'on appelle l'épargnant, qui va aussi investir dans les sociétés de la santé. Le dénominateur commun à ces trois catégories de typologie, c'est une possibilité d'avoir un gommage fiscal sur cet investissement.
Justement, donc un intérêt, des avantages fiscaux
tout à fait.
D'investir.
Oui,
de quel ordre ?
Alors aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'IRPME, qui permet à l'investisseur épargnant, pour vous donner un exemple, s'il met 100, il va avoir une défiscalisation entre 22 et 25%. Depuis ce 1er janvier 2024, ça a été optimisé par le gouvernement, avec une possibilité de passer entre 30 et 50% dans les années à venir. Et il va y avoir un statut d'entreprise qui va être créé, qui s'appelle Jeune Entreprise Innovante de Rupture, dans laquelle toutes les sociétés de la santé innovantes vont être évidemment éligibles.
Et c'est la même chose en France, en Belgique, c'est la même chose en... J'imagine que ça varie en fonction des pays.
Alors, il faut savoir que c'est pour les sociétés de la communauté européenne, parce que c'est un dispositif qui est possible pour une société de la communauté européenne de bénéficier de ce gommage fiscal.
D'accord. Donc maintenant vous avez un siège à Paris, j'imagine, non? Vous avez des bureaux
alors,
à Paris
pour... Oui, tout à fait. Alors, on a le headquarter, c'est Barcelone. Mm-hmm. Il y a une équipe d'un peu moins de 10 personnes.
Ouais.
Moi, je m'occupe aujourd'hui entre Paris et Montpellier de la France et de la Belgique.
Faites attention au TGV quand même.
Je fais attention. Ouais. Exactement. Ouais. Je fais attention au TGV.
Vous occupez de la France et de la Belgique, oui.
On a une adresse et un headquarter à Paris et on a aujourd'hui un bureau à Montpellier.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Marc Bessol. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.